La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, peut-on bande dessiner le monde quantique ? La physique quantique est la physique qui vaut pour les particules élémentaires, pour l'atome, en gros pour tout ce qui n'est pas gros. Elle a ceci d'original qu'elle ne se fonde pas seulement sur un formalisme, c'est-à-dire sur un ensemble de concepts mathématiques et d'équations. Elle requiert également ce qu'on appelle une interprétation. Dès 1927, alors qu'elle venait tout juste d'apparaître, les physiciens tentèrent de comprendre en quoi elle consiste exactement. Ils discutèrent les règles selon lesquelles il convient de l'utiliser et ils s'interrogèrent sur le type de discours concernant la réalité physique qu'elle autorise ou interdit. Ce point-là est tout à fait singulier. Jamais une autre discipline scientifique n'avait à ce point exigé que soit également mise en œuvre un travail d'interprétation pour pouvoir être comprise et appliquée. Cette particularité a provoqué un certain nombre de débats à propos du lien entre le formel et le réel, entre le virtuel et l'actuel, entre le possible et l'effectif, entre le hasard et le déterminé. De par sa nature même, la physique quantique interroge la relation entre le monde physique et sa représentation mathématique, et elle fait apparaître, à la couture de la physique et de la philosophie, des questions fascinantes. Il faut dire qu'à l'échelle microscopique, la réalité des choses ne va plus sans dire. De sorte que l'esprit humain a dû se battre pour appréhender le sens de ce qu'il avait lui-même construit. Les objets quantiques ont des comportements étranges qu'aucune chose habituelle n'est capable de reproduire. Pour les comprendre, il convient donc de renoncer au mode de représentation ordinaire. Par exemple, il est impossible de dessiner un atome. D'abord, son noyau vibrionnant ne ressemble en rien à l'espèce de framboise statique et bicolore par laquelle on le représente souvent dans les manuels scolaires, avec les protons en rouge et les neutrons en bleu. Ensuite, ces électrons n'ont pas les trajectoires que les dessins leur accordent trop souvent. Ils ne ressemblent pas non plus aux nuages diffus par lesquels certains autres manuels tentent au contraire de faire voir qu'ils n'ont pas vraiment de trajectoire. Car les électrons ne sont pas des ectoplasmes délocalisés. Mais alors, que veut dire comprendre lorsqu'il n'y a plus d'image pertinente ? La dissolution des poissons pilotes de l'intelligibilité que sont les images, les illustrations ou les schémas engendre une frustration sceptique chez ceux qui ont besoin de voir pour croire. Mais c'est au contraire de la fascination qu'elle fait naître chez ceux qui s'émerveillent de ce que l'intellect soit capable de démentir puis de dépasser ce que les images indiquent ou traduisent. Reste que l'éloignement de la physique quantique hors du visuel et de l'intuitif en rend l'appropriation particulièrement délicate et risquée. En la matière, une bonne bande dessinée pourrait-elle rendre des services ? Pour répondre à cette question, j'ai invité Thibaut Damour. Bonjour Thibaut Damour.
Bonjour Étienne.
Vous êtes physicien théoricien, professeur à l'Institut des hautes études scientifiques, membre de l'Académie des sciences. Vous êtes connu pour vos travaux sur les trous noirs, sur les pulsars, les ondes gravitationnelles, la cosmologie quantique. Mais si je vous invite aujourd'hui, c'est parce que vous avez signé avec Mathieu Burnia une bande dessinée sur la physique quantique qui s'intitule « Le mystère du monde quantique ». Alors avant que nous évoquions ce travail qui est remarquable, c'est un magnifique album, je voulais qu'on revienne sur les ondes gravitationnelles puisque vous en êtes spécialiste. Je crois d'ailleurs que vous rééditez un livre sur Einstein qui était paru il y a quelques années en l'actualisant pour tenir compte de la découverte qui a été annoncée le 11 février 2016,
oui.
La détection directe des ondes gravitationnelles. Où étiez-vous le 11 février à 16h lorsque cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse aux États-Unis ?
J'étais à Bure, à l'Institut des hautes études scientifiques, et j'ai regardé en direct l'annonce faite aux États-Unis par les Américains. Alors, il se trouve qu'en décembre dernier, j'étais à Berlin pour une conférence qui célébrait la découverte des équations de la relativité générale par Einstein, qui avait eu lieu fin novembre, début décembre à Berlin. Et lors de cette conférence, où je parlais en fait de la coalescence de trous noirs et de l'émission d'ondes gravitationnelles, certains Américains, tout en refusant de confirmer la rumeur que les ondes gravitationnelles étaient détectées, présenter un panorama de leur contribution à la détection des ondes gravitationnelles avec un tel niveau d'excitation personnelle que je me suis tout de suite dit qu'ils avaient détecté les ondes gravitationnelles et qu'il se mettait comme ça en place, surtout qu'il y avait deux prix Nobel dans la salle.
En fait, c'est une onde, enfin, ce sont des ondes qui ont traversé la Terre le 14 septembre 2015. Et donc, au bout de quelques mois, ils avaient déjà la certitude que le signal détecté était bien celui prévu par les équations d'Einstein.
Oui. Même 3 minutes après le passage du signal, des méthodes non spécifiques qui ne permettaient pas de dire que c'était la fusion de deux trous noirs disaient qu'il y avait un blip, un petit sursaut comme ça, perdu totalement au milieu du bruit que l'on ne verrait pas du tout.
Le bruit est énorme.
Le bruit est énorme. Le bruit est 500 fois plus grand que le signal observé. Donc si on regarde vraiment le signal brut, on ne voit strictement rien. Mais des méthodes avaient déjà permis de dire qu'il s'était passé quelque chose, une fluctuation qui n'était pas due aux 50 Hertz, qui est d'ailleurs du 60 aux États-Unis, à quelque chose d'autre. Puis après, quelques heures après, ils ont fait passer des filtres, ou quelques semaines après, des filtres qui sont déjà les lunettes créées par la théorie de la relativité générale. Parce que les théoriciens, depuis dont moi-même et mes élèves, avons créé, à partir des équations de la relativité générale, des prédictions sur à quoi devrait ressembler l'onde gravitationnelle émise par la fusion de deux trous noirs. Ces prédictions donnent finalement des gabarits de formes d'ondes possibles qui dépendent des deux masses, et on peut utiliser ça comme des lunettes pour regarder le signal perdu dans le bruit et voir s'il y a quelque chose qui ressemble à ça. Et donc, après quelques semaines, ils ont trouvé qu'effectivement, des signaux de ce type rendaient compte en très grand détail, c'est-à-dire avaient une excellente corrélation. En faisant le produit des deux, on voyait que ça rentrait exactement, ça rendait compte de ce qui avait été observé. Et à ce moment-là, ils ont pu interpréter ce signal en utilisant la théorie elle-même de la relativité générale en termes de deux trous noirs d'une trentaine de masses solaires chacun, avec un signal complet où les deux trous noirs pendant ici quelques orbites, 4 ou 5 orbites, tournent l'un autour de l'autre, puis assez rapidement fusionnent, et à la fin, on voit le signal gravitationnel prédit par le troisième trou noir, si on veut, formé par la fusion des deux premiers trous noirs, mais qui est formé dans un état où il n'est pas à l'équilibre, il n'est pas au repos, et donc il vibre. Et les modes de vibration calculés par la théorie sont inclus dans le signal et contribuent, même si on ne les voit pas vraiment, à dire que ce qu'on a vu était bien la fusion de deux trous noirs d'une trentaine de masses solaires.
Mais si je vous pose la question, Thibaut Damour, c'est parce que vous êtes connu pour avoir fait les calculs correspondant à une fusion de deux trous noirs, en tout cas une partie des calculs, parce que je crois que la partie finale du signal est plutôt calculée par simulation.
Non, en fait... Moi et mes collaborateurs avons contribué aux divers niveaux de cette prédiction. C'est-à-dire, effectivement, une partie de ces travaux concernait la partie avant la fusion, mais il se trouve qu'en l'an 2000, avec une post-doctorante italienne, nous avons publié le premier article, 15 ans avant l'observation, qui a été historiquement le premier article où a été calculée la forme d'onde complète, c'est-à-dire la phase où les deux trous noirs se rapprochent, tournent l'un autour de l'autre et donc émettent comme une sorte de sinusoïde accéléré, puis la phase de fusion des deux trous noirs et attachée à ça la phase dite de ring down en anglais, c'est-à-dire on voit les modes de vibration d'un trou noir parce qu'un trou noir nouvellement formé est comme une espèce de cloche mais qui vibre parce que cette cloche on lui a tapé dessus et donc elle émet des modes caractéristiques de vibration. Et on voit, et ce signal-là, donc publié en 2000, contenait tout ça. Il a été confirmé 5 ans après, quand les simulations numériques, qui n'existaient pas en 2000, ont pu calculer ça. Et effectivement, les simulations numériques ont raffiné notre prédiction.
Mais ça veut dire que si le détecteur avait été opérationnel en 1990, par exemple, et si le signal, enfin si l'onde était passée à ce moment-là, il n'y avait pas les moyens de la reconnaître.
Il n'y avait pas les moyens de reconnaître le signal complet. On pouvait reconnaître en 1990 la partie avant la fusion où on ne voit pas deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre. On voit une espèce de sinusoïde dont l'amplitude augmente et aussi dont la fréquence augmente puisque les deux trous noirs tournent de plus en plus vite l'un autour de l'autre. Donc cette partie du signal était prédite dès 1990.
Donc, je reviens à ma question, ça a dû provoquer en vous une émotion très forte, non, de voir que vos calculs
Oui,
avait trouvé un écho dans un phénomène naturel qui venait de se manifester.
Ah, ça, c'est le plus grand plaisir
ça
du théoricien.
Ça n'arrive pas à tout le monde.
Ça n'arrive pas, c'est vrai, ça n'arrive pas à tout le monde. J'ai eu la chance, personnellement, que ça m'arrive déjà plusieurs fois, puisque mon premier article scientifique publié en 1974 avait prédit que, quand on a annoncé la découverte du premier pulsar binaire, que, en fait, ce pulsar binaire devrait... sa direction autour de laquelle il tourne, un pulsar binaire, c'est un pulsar qui tourne autour d'une autre étoile à neutrons. Le pulsar est comme une grosse toupie, et comme une toupie ordinaire, si vous mettez une toupie qui tourne sur le sol, vous verrez en fait la toupie, son axe va tourner dans l'espace, c'est ce qu'on appelle la précession. Et on avait prédit qu'à cause des forces de la relativité générale, ça devrait comme ça tourner cet axe, et donc que le signal devrait changer de forme et disparaître. Et ça, ça a été vu 20 ans plus tard. Donc c'était un plaisir de théoricien. Un autre grand plaisir que j'ai eu, c'est que j'ai travaillé sur la théorie, qui est toujours ce filtre qui permet de comprendre l'expérience, la théorie du chronométrage d'un pulsar binaire, c'est-à-dire le signal d'un pulsar binaire. Donc un pulsar binaire, ça contient un pulsar qui tourne autour d'une autre étoile morte. Le pulsar est comme un gyrophare. À chaque tour, il émet un faisceau électromagnétique qui balaye l'espace. Mais comme ce pulsar bouge dans l'espace, il est dans une trajectoire autour de son compagnon, le faisceau qui nous arrive sur Terre arrive à des moments un peu séparés parce que le pulsar peut être plus ou moins loin sur sa trajectoire et donc ça met plus de temps à arriver. Et puis il y a aussi des phénomènes de rotation dans l'espace. Et donc, avec Nathalie Deruel, nous avions été les premiers à écrire une formule complète sur la théorie du chronométrage des pulsars binaires et qui incluait déjà l'effet des ondes gravitationnelles en ce sens que le fait que la force gravitationnelle entre le pulsar et son compagnon mette un certain temps à se propager parce que Einstein nous dit la gravitation ne se propage pas instantanément, elle se propage à la vitesse de la lumière. Et donc, intuitivement, on pourrait se dire que la force sur un pulsar n'est pas dirigée exactement là où est l'autre pulsar à ce moment-là, mais avec un angle de déviation, parce qu'il a fallu un peu de temps, le temps que la gravitation se propage, elle met une seconde à passer d'un pulsar à l'autre. Ils sont séparés en gros de 300 000 km, la gravitation se propage à 300 000 km par seconde, donc en fait il doit y avoir un décalage d'une seconde dans le temps, ce qui fait un petit angle. L'effet de ce petit angle prévu d'après la théorie d'Einstein disait qu'il devrait y avoir une force qui s'oppose au mouvement du pulsar et qui fait que le pulsar tombe sur une orbite un peu plus basse autour de son compagnon et que du coup, la période orbitale de ce système devait devenir de plus en plus courte. Cette prédiction-là et d'autres prédictions qu'on avait faites, elles aussi ont été confirmées par des observations.
Il y a eu un prix Nobel en 93.
Il y a eu un prix Nobel à Joe Taylor et Russell Hodge qui avaient découvert cet objet, nouvel objet de la nature. Donc, c'était un autre exemple où, en tant que théoricien, j'avais eu le plaisir que des calculs qui prennent des années soit finalement comparé à des objets réels qui sont là-haut dans notre galaxie.
Moi, je n'oublie pas que je vous ai invité pour parler de physique quantique, mais j'ai quand même encore quelques questions à vous poser sur les ondes gravitationnelles. D'abord, est-ce que vous avez été surpris par les masses des deux trous noirs qui ont fusionné, 30 masses solaires à peu près? Est-ce que c'est un ordre de grandeur auquel vous vous attendiez?
Non, moi je ne m'attendais pas à cela. J'ai découvert, et d'ailleurs, personne ne s'attendait à cela, mais les astrophysiciens... moi, je suis plus physicien théoricien qu'astrophysicien. Les astrophysiciens auraient dû s'y attendre parce qu'il y avait eu des prédictions, en fait. Mais les gens avaient dit, bon, c'est une prédiction. Il y avait sans doute, en fait, un échantillon de prédictions différentes. Donc, à tout moment, dans la science, il y a des articles publiés. Et c'est vrai que vous ne savez pas quelles sont les prédictions qui vont être les bonnes. Donc, comme cette prédiction faite par un groupe de Polonais, Belczynski et ses collaborateurs, était en dehors du paradigme courant, où tout le monde disait non, les trous noirs, ça va 3 à 15 masses solaires et puis pas au-delà, personne n'a prêté attention à cette prédiction. Mais en fait, il semble qu'ils avaient raison et qu'il y avait bien des arguments pour dire que...
Donc cette découverte va changer certaines choses dans la conception que les astrophysiciens se font des trous noirs.
Pas dans la conception même de l'objet trou noir, mais dans la formation des trous noirs. En fait, ça change des choses sur l'évolution des étoiles très massives qui créent les trous noirs.
Et est-ce qu'on comprend comment deux trous noirs peuvent se trouver côte à côte à une centaine de kilomètres avant de fusionner? Il faut que...
Oui.
Est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent...
Il y en a même plusieurs. Un des mécanismes les plus simples, c'est qu'on sait que la moitié des étoiles dans une galaxie sont binaires déjà. Mais ce sont des étoiles qui sont des étoiles énormes et elles sont à très très grande distance. Mais lors d'évolution de ce système binaire, il peut passer par des phases. D'abord, il y a des explosions de supernovae, les étoiles implosent, explosent. Et puis, il y a des phases où les deux étoiles peuvent déjà fusionner, en ce sens que la matière d'une étoile va sur l'autre. Et ça, ça fait un système où les étoiles tournent dans du gaz au lieu de tourner dans l'espace vide. Et donc, ils se rapprochent beaucoup. Et ils sont déjà à une distance, bon, qui n'est pas aussi proche que ce que l'on voit. Moralité, il y a bien des mécanismes astrophysiques connus depuis longtemps qui expliquent qu'il devrait y avoir une population de trous noirs à une distance suffisamment courte l'une de l'autre pour pouvoir, par émission d'ondes gravitationnelles, se rapprocher et finalement fusionner en moins que 10 milliards d'années.
Dernière question, Thibault Damour, sur les sur les ondes gravitationnelles avant de passer au monde quantique. Mais en fait, c'est une question qui interroge le statut de l'image pour vous. Vous avez fait des calculs très compliqués sur les fusions de trous noirs. C'est des calculs qui demandent des années, vous l'avez dit. Est-ce qu'ils vous permettent d'avoir une image de ce qui se passe vraiment? C'est-à-dire, quand vous faites vos calculs, est-ce que vous avez conscience, par des représentations imagées, du phénomène que vous êtes en train de calculer? Est-ce que vous êtes capable de raconter ce que vivent deux trous noirs qui se rapprochent, tournent l'un autour de l'autre, leurs horizons se mélangent et puis ils fusionnent dans une espèce de catastrophe capable d'émettre une énergie absolument colossale?
Oui, pour la dernière phase, je dois dire que là, seule la relativité numérique montre vraiment la fusion des deux horizons comme deux bulles de savon qui se rapprochent tellement qu'elles fusionnent. Mais pour les premières phases, les méthodes théoriques et certains développements que j'avais introduits, en fait, ont donné un nouveau paradigme des trous noirs qui est de considérer qu'un trou noir, c'est comme une bulle de savon, en fait, qui a par exemple une viscosité de surface que j'ai pu calculer, qui a une résistivité surfacique qui vaut 377 ohms, c'est-à-dire quand vous achetez dans un magasin une résistance de 377 ohms, vous pouvez vous dire que ça, c'est lié à la résistivité d'un trou noir. Et donc, en fait, il y a une image assez précise de la surface d'un trou noir comme étant une bulle avec des propriétés électriques et de viscosité.
Merci pour ces éclaircissements, Thibault Damour. On en vient au sujet de l'émission qui est le monde quantique. Donc, je rappelais que vous venez de publier avec le dessinateur Mathieu Burnia une bande dessinée. J'imagine que c'est vous qui avez écrit le scénario. Peut-être pas complètement.
Voilà, pas complètement, parce que au départ, effectivement, c'était un projet que j'avais eu depuis un certain temps. On va y venir pour essayer de visualiser la réalité quantique. J'avais même discuté un moment avec Moebius, un célèbre auteur de bande dessinée. Il était intéressé, mais finalement, ça s'est pas fait. Indépendamment de moi, ce jeune dessinateur belge, Mathieu Burnia, aussi était intéressé à la physique quantique, parce que le côté philosophique, le côté quelles sont les questions sur la réalité l'intéressait. Et un jour, je passais, en fait, ici, à la Maison de la Radio, pas sur France Culture, mais sur une autre chaîne.
Pas de problème.
Voilà. Et il m'a entendu et il m'a envoyé un courrier électronique en disant « Je vous ai entendu, j'aimerais vous contacter pour savoir si une bande dessinée sur la physique quantique, ça
vous intéresse. » Donc l'idée vient de lui.
Voilà, l'idée indépendamment venait de lui. Et donc immédiatement, j'ai répondu et on s'est vu pendant 3 étés de suite. Pour essayer de combiner nos expertises, effectivement, c'est pas que, vous voyez, je n'ai pas fourni un texte et lui, il a dessiné. On a discuté beaucoup pendant 3 étés. Je lui ai expliqué toute la physique moderne, la relativité restreinte, la relativité générale, la physique quantique. Puis après, on a cherché, est-ce qu'on peut expliquer la physique quantique en images? Et jusqu'au dernier moment, pratiquement un des derniers jours du troisième été, on était un peu désespérés en se disant non. J'avais écrit des scénarios, déjà plusieurs centaines de pages. Il me disait, bon, il y a plein de choses, mais c'est trop compliqué. Et puis, il n'y a pas un fil conducteur qui va entraîner le lecteur. Et puis, à la fin, on a eu l'idée de nos héros. Un détective qui est un peu, qui est c'est pas une copie de Tintin et Minou, c'est plutôt une référence simplement, une allusion.
Il y a un personnage et un animal.
Voilà, il y a un personnage et un animal. Et ça, ça nous a permis d'avoir un fil conducteur. Et là, on a repris le scénario, j'ai réécrit, et lui-même derrière réécrivait. Donc ça a été, le scénario a été coécrit. Puis après, on a discuté du découpage, séparé en cases, et la partie graphique est entièrement due à Mathieu Burnière.
Je dois avouer que ça m'a surpris, ce projet de votre part. Je m'attendais pas à ce que vous soyez un jour intéressé par l'idée d'écrire une bande dessinée sur le monde quantique.
Mais
d'abord parce que c'est sans doute le sujet le plus difficile qui soit, pour les raisons que j'ai dites dans le chapeau. Les particules sont pas des objets qui sont l'équivalent microscopique d'objets macroscopiques, donc... Est-ce qu'on peut...
Mais justement, c'est là où la bande dessinée, ça n'est pas un plus, c'est pas pour faire beau ou des choses comme ça. Il y avait une volonté très précise d'utiliser le graphisme de la bande dessinée pour exprimer la réalité quantique. Parce que, en effet, vous avez dit, Étienne, au début, qu'en général, on dit que le côté mystérieux et flou de la réalité quantique est limité au monde microscopique. Il y a les petits objets. À l'intérieur d'un atome, tout le monde est d'accord, depuis 1913, 1925, qu'il y a du flou. On ne peut pas décrire un électron comme une particule qui tourne autour d'un noyau. On n'a pas le droit. Mais certaines personnes, certains des créateurs de la mécanique quantique, pas tous, comme Niels Bohr, comme Max Born, nous ont dit « Oui, mais le flou et l'aléatoire est limité au monde microscopique. Quand vous rentrez dans le monde macroscopique, des objets autour de nous, dans ce studio, de cette bouteille d'eau, de ce micro, là, ça devient précis, il n'y a plus ce flou quantique. » En fait, c'est faux. Et pour représenter le fait que la réalité quantique garde son flou et qu'il faut adapter notre notion de réalité... Le graphisme était essentiel parce que l'idée essentielle, c'est que la réalité est faite d'une surimpression, d'une superposition de réalités différentes.
Ça, c'est une interprétation.
Alors,
on y reviendra, mais...
Commençons tout de suite. Vous avez dit, il y a une théorie. La vision, effectivement, c'est une vision standard, disons, qu'il y a une théorie, c'est un schéma d'équations mathématiques... et que ce n'est qu'une représentation mathématique du réel, et qu'ensuite, on a besoin d'interpréter les symboles mathématiques en termes d'objets observés autour de nous.
Oui, pour simplement décider de ce qu'on fait effectivement lorsqu'on fait une mesure, par exemple. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une mesure ?
Ça, c'est ce que l'on dit souvent. Je pense que c'est faux, et je suis Einstein en ce sens-là. Parce qu'en fait, il y a cette conversation, d'ailleurs très intéressante, entre Heisenberg et Einstein. Einstein a joué un rôle essentiel dans la découverte de mécanique quantique qui est souvent oublié aujourd'hui. Et dans la bande dessinée, on veut aussi remettre en selle l'idée que c'est Einstein qui a contribué certaines des idées essentielles. Mais il y a eu une conversation où Heisenberg avait présenté un schéma de la mécanique quantique en disant « il y a des objets mathématiques ». Mais je vais les interpréter uniquement en termes d'observables. Donc, je ne peux pas décrire la réalité quantique, mais je peux vous dire quelle est la fréquence émise quand à l'intérieur d'un atome, il y a une transition d'un certain état à un autre état. Et Einstein lui dit, après son séminaire, Einstein lui dit, c'était très intéressant, Heisenberg, tes idées, mais j'aimerais en parler un peu plus avec toi, rentrons chez moi pour en discuter. C'est une vraie conversation qui a eu lieu. Raconté par Heisenberg lui-même. Et Einstein lui dit, mais pourquoi vous parlez comme ça que de choses observables? Et Heisenberg lui dit, mais c'est vous, maître, qui nous avez dit dans la théorie de la relativité restreinte qu'il fallait interpréter les équations, que le temps, ça n'était pas quelque chose d'abstrait, le temps, c'était ce que mesurait une horloge. Et Einstein lui a répondu, ce qui l'a beaucoup surpris, « Ah oui, j'ai peut-être dit ça, mais il faut pas me prendre trop au sérieux, parce qu'il faut avoir tout de même plusieurs cordes à son arc. C'est utile du point de vue heuristique, mais il faut en fait chercher à comprendre le réel directement au-delà du côté positiviste habituel, qui est de dire « la physique ne décrit que des observations, des résultats d'observation ». Einstein était à la recherche toujours du réel derrière. Et Einstein a dit cette phrase profonde à Heisenberg, qui est que c'est la théorie qui définit ce qui est observable. Et donc, c'est la théorie qui définit ce qui est son propre interprétation. Mmh. Et c'est cette idée-là...
Que vous reprenez.
Que nous reprenons à la suite d'Einstein et surtout de ce jeune Américain Everett, qui a été le premier à dire « Non, il ne faut pas projeter sur les équations de la mécanique quantique une interprétation, il faut en extraire le jus, l'essence, qui va être l'interprétation elle-même de la réalité quantique qui sort des équations. Mais il faut un courage intellectuel pour ça. »
Assez grand.
Assez grand.
que je n'ai pas.
Eh bien, il faut l'avoir. Et en fait, le but essentiel de cette bande dessinée est justement de donner à tout le monde...
Du courage.
Et à montrer la beauté du monde quantique si on suit Einstein et Everett et qu'on se dit... Regardons vraiment au ras des équations, qu'est-ce que c'est que le réel quantique ? Et la meilleure image que l'on peut donner, c'est que au ras des équations, le réel quantique, c'est comme si vous alliez au cinéma pour voir le film d'Alain René, Smoking, No Smoking. Certains de nos auditeurs, ont vu les films d'Alain René, ont vu en fait deux films, parce qu'il y a le film Smoking, il y a le film No Smoking, et à l'intérieur de chacun de ces films, en fait, l'histoire bifurque. À un moment, un personnage répond si, plutôt que ça, et du coup, il y a deux histoires qui branchent comme ça. Eh bien maintenant, vous prenez toute cette bifurcation et ces deux films, et vous les surimpressionnez sur la même pellicule. C'est-à-dire que vous imaginez entrer dans une salle de cinéma et dans cette salle, vous voyez un film. Et là, au départ, vous voyez seulement deux personnages qui parlent. Et puis après, quand ça bifurque, vous en voyez quatre, puisqu'il y en a qui répondent quelque chose et puis il y en a deux autres qui répondent autre chose.
Puis huit.
Et puis plus huit. Et donc, au bout d'un moment, vous aurez l'impression que le film devient un brouillamini, que vous ne pouvez plus rien voir. C'est le flou quantique projeté au niveau macroscopique. Mais c'est là où vous devez penser que à l'intérieur de chaque sous-couche de ce film multi-surimpressionné, les personnages suivent une histoire logique, puisque eux, dans ce sous-film, ils ont répondu ça, donc ça a eu telle conséquence, et donc ils suivent quelque chose de logique. Eh bien, la réalité quantique, nous dit Einstein et Everett, c'est comme ça, enfin surtout Everett.
Ah, oui, c'est surtout Everett, parce que je ne suis pas sûr qu'Einstein ait repris l'idée.
Malheureusement, voilà, il se trouve que malheureusement, je cite souvent Einstein et Everett, parce qu'il se trouve... Et en fait, c'est un scoop qui n'était pas connu.
Qu'Einstein a écouté un exposé d'Everett.
Everett a écouté le dernier séminaire d'Einstein.
À Princeton.
Voilà. Et Everett a été frappé par des phrases d'Einstein, parce que dans le dernier séminaire qu'a donné Einstein, le 14 avril 1954 à Princeton...
Un an avant sa mort.
Juste un an avant sa mort, effectivement. Il a parlé du monde quantique, surtout. Il a aussi fait un peu allusion à la relativité générale, parce qu'il disait, à mon avis, ça va être important pour la physique du futur, ce en quoi il avait raison. Et il a dit, mais il y a des choses qui posent problème dans la physique quantique. Il a donné un exemple simple. Si vous mettez une particule, qui n'est pas une particule élémentaire, une petite bille d'un microgramme, mais suffisamment grosse pour qu'on puisse la voir, à l'intérieur d'une boîte, vous allez la voir, c'est une particule macroscopique. Mais si vous attendez longtemps, la mécanique quantique vous dit que ça devient flou. Vous ne pouvez plus dire, comme l'électron dans l'atome, vous attendez des milliards d'années, et la physique quantique vous dit, cette petite bille que je devrais voir comme un objet macroscopique, je ne la vois plus. La théorie me dit, elle est n'importe où, perdue dans la boîte. Et Einstein, à ce moment-là, passant de la bille à la Lune, a dit, bon, la Lune aussi devrait être floue. Et tout d'un coup, il a dit cette phrase « Est-il croyable qu'il faille le regard de quelqu'un comme une souris pour que la Lune cesse d'être floue ?» Et cette phrase a beaucoup frappé Everett. Et il l'a citée, et ça lui a donné le courage, alors qu'à l'époque, Niels Bohr, il se trouve, est passé quelques mois plus tard à Princeton. Et Niels Bohr a donné une conférence. Là aussi, Everett est allé écouter la conférence. Mais Niels Bohr s'est contenté d'affirmer « Il n'y a pas de monde quantique, il faut se contenter de regarder les observables, c'est tout le schéma expérimental qui définit quelque chose, on n'a pas le droit de parler réalité. » Donc Everett a été frustré par ce que disait Bohr et avait en souvenir cette injonction d'Einstein de dire « Il faut comprendre pourquoi le flou quantique ne se voit pas. » Et Everett a eu cette idée géniale que, en fait, la Lune est floue, mais que quand la souris ou nous regardons la Lune, la souris aussi est floue. Il y a plusieurs souris qui regardent plusieurs lunes, mais chaque souris ne regarde qu'une lune
qui
et du
flou,
qui n'est pas flou.
Mais vous parlez de surimpression, c'est ça, de couches
oui.
superposées,
voilà,
de
surimpression,
monde.
Au sens de la cinématographie.
Alors que Everett lui parlait d'univers parallèle.
Non. Everett n'a jamais parlé d'univers parallèle.
On lui a collé ça.
Everett n'a jamais parlé d'univers parallèle, justement.
En tout cas, il y a l'idée que quand on fait une mesure dichotomique, une mesure peut donner deux résultats différents, disons plus 1 et moins 1. Lorsqu'on effectue la mesure, en fait, il y a création d'une couche supplémentaire dans laquelle la deuxième possibilité par rapport à celle qu'on voit s'exprimer dans la couche où nous sommes se fabrique en quelque sorte.
Voilà, réexpliquons pour nos auditeurs.
J'ai pas été clair.
Voilà, juste, on a le temps. Donc,
on a le temps.
Si on fait une expérience de pile ou face, et que ce qui détermine si c'est pile ou face est d'origine suffisamment microscopique pour être considéré comme étant quantique, on dirait en général, si je tire à pile ou face, j'ai soit pile, soit face, et puis c'est comme ça, c'est l'un ou l'autre.
C'est le hasard qui décide.
Les équations de la mécanique quantique, elles nous disent, si je tire à pile ou face, en fait, le dé à la sortie va être dans une surimpression de pile ou de face. Les gens savaient ça depuis 1926 avec Max Born, mais tout le monde a refusé ça en disant « Mais non, on sait bien que si on tire pile ou face, on voit pile ou face. » Donc, il faut rajouter à la mécanique quantique l'idée que tout d'un coup, l'aléatoire apparaît, on ne sait pas d'où, et que on va sélectionner soit pile, soit face. C'est là où Everett dit « Non, quand je tire à pile ou face, il y a bien une superposition de pile ou face, mais celui qui regarde le dé, pile ou face, lui-même est dans un état schizophrénique où il y a une partie de lui-même qui voit pile et une partie de lui-même qui voit face. Et ces parties, ça n'est pas comme... elles ne sont pas dans le même espace. On n'est plus dans l'espace à trois dimensions. C'est dans l'espace des configurations quantiques. Il ne faut pas imaginer, contrairement à ce que l'on dit souvent, que qu'on crée tout d'un coup un nouvel univers et que l'univers se multiplie. Non, Everett ne nous dit pas ça. Il nous dit qu'il y a toujours ces surimpressions parce qu'on peut toujours les recombiner potentiellement plus tard. Et donc, elles appartiennent à la même très grande réalité quantique. Ce n'est que dans une approximation, comme on dit en anglais, for all practical purposes, à toute fin pratique, on peut faire comme si il y avait effectivement une souris qui regarde une lune et puis une autre souris qui regarde une autre
lune.
Donc
si je vous comprends bien, Thibault Lamour, lorsque je perds à pile ou face, dans l'espace où je suis, en fait, je peux me consoler en disant qu'il existe un autre espace dans lequel j'ai gagné.
Oui, et c'est pour ça que ça
Mais
fait
je ne peux pas y aller. Cet espace où j'ai gagné m'est inaccessible.
Pas celui qui a vu qu'il avait perdu. Oui, il y a donc ça ne change pas au point de vue pratique. Si on a perdu au point de vue pratique, la personne qui a perdu ne pourra pas être la
Mais
même qui aura
gagné.
Est-ce que
ça contredit pas le rasoir d'Occam, c'est-à-dire est-ce que ça ne conduit pas à des hypothèses quasi métaphysiques qui sont quand même très courageuses comme vous le dites?
Courageux. En fait, non, je pense que loin de contredire le rasoir d'Occam, c'est en fait ça applique le rasoir d'Occam parce que l'autre interprétation rajoute quelque chose à la mécanique quantique, rajoute une interprétation et rajoute ces coups de dés, ce aléatoire qui reste mystérieux parce que qui décide? Ça devient hors rationalité. Alors que
c'est
si
le
on
hasard.
Reste...
C'est le hasard d'après l'interprétation.
Oui, mais le hasard n'est qu'un mot. Einstein, on lui a reproché de dire Dieu ne joue pas au dé, laisse Dieu décider ce qu'il fait, etc. Einstein c'est lui qui a introduit les probabilités en mécanique quantique. Rappelons-nous que celui qui a introduit la probabilité en mécanique quantique, c'était Einstein. Il était
oui,
un
vous
maître.
L'expliquez très bien justement dans cette bande dessinée,
voilà,
le mystère du monde quantique.
On explique aussi, la bande dessinée va...
Elle reprend tous les grands personnages.
Voilà, reprend les personnages.
Planck, Schrödinger, Born, Heisenberg.
Et finit avec Everett pour utiliser, parce que je devrais le dire, les possibilités du graphisme. Parce que justement, on pourrait dire, j'ai expliqué en utilisant l'image du cinéma. On va au cinéma, on voit un film multi-surimpressionné. Mais la bande dessinée, elle commence au départ en noir et blanc pour garder la couleur, pour exprimer les superpositions. Parce que dans une superposition de réalité...
À la fin, elle devient en couleur.
Oui, parce que dans une superposition de réalité quantique, qu'est-ce qui distingue une réalité d'une autre? Que nous dit le formalisme mathématique de la réalité quantique? Elle dit que ce qui distingue, c'est ce qu'on appellerait mathématiquement un nombre complexe, qu'il y a une amplitude de réalité complexe pour que ça soit pile qui soit arrivé, et une autre amplitude complexe pour que ça soit face qui ait été réalisé. Alors que la mécanique quantique nous dit, en fait, il y a les deux, mais décrites par des nombres complexes. Or, on utilise une convention qui est qu'un nombre complexe peut être représenté par une couleur, avec à la fois une nuance de couleur, rouge, orangé, jaune, vert, en tournant sur le cercle des couleurs. Donc ça, ça donne une partie d'un nombre complexe qui est dans un plan, un angle. Et puis la longueur, aussi l'amplitude de ce nombre complexe est représentée par l'intensité de sa couleur, plus ou moins faible. Et donc on peut, et c'est là où la bande dessinée était cruciale, pour répondre à la première question, pourquoi une bande dessinée sur le monde quantique ? Parce que justement, ça permet d'expliquer cette réalité de superposition. À la fin, quand le chat qui chez nous devient un chien de Schrödinger est dans une superposition d'un chien mort et d'un chien vivant, c'est le chien vivant qui gagne d'ailleurs
à la fin. Alors qu'il est mort au début.
Voilà. Superposition, on peut représenter cette superposition en dessinant sur chaque case un chien bleu en bonne santé et un chien rouge en mauvais état. Mais on voit les deux sur la page. Et donc, la bande dessinée est absolument cruciale et le lecteur est invité à imaginer à la fin le cosmos dans des superpositions quantiques parce que les dernières données du satellite européen Planck ont confirmé l'idée que les fluctuations que l'on voit dans la température du fond radio, c'est-à-dire la lumière refroidie du Big Bang, la lumière fossile du Big Bang, sont bien d'origine quantique et qu'elles sont aussi liées dans la théorie mathématique de ces fluctuations quantiques aux grumeaux de densité qui ont donné lieu à notre univers, à notre galaxie par exemple. Donc, il faut imaginer que l'expérience la plus actuelle sur la cosmologie a donc vérifié que les grumeaux qui ont donné lieu à notre galaxie, il n'y a pas plus classique, nous dirait Bohr, que notre galaxie, sont quantiques. Et donc, notre galaxie elle-même est dans une superposition quantique de plusieurs galaxies. Une galaxie rouge, une galaxie bleue. Et la fin de la bande dessinée finit sur un univers comme ça de galaxies en superposition. Donc ça voulait être le message central. Voilà. Mais il faut du courage pour ça.
Il faut du courage, c'est-à-dire que, en gros, si je résume ce que j'ai compris de ce que vous avez dit, on ne peut représenter le monde quantique qu'en acceptant cette idée que vous venez de défendre, à savoir que les superpositions d'espace correspondant à chacune des possibilités couvrent les équations quantiques, existent en même temps.
Oui, elles existent.
Et sinon, vous n'auriez pas pu faire la bande dessinée.
Non, c'est pour ça que cette
bande dessinée... C'est pour ça que j'en ai pas fait, moi, personnellement, de bande dessinée sur le monde quantique, parce que justement, je voyais cet obstacle rédhibitoire, qui est que cette physique quantique étant, pour les raisons qu'on a dites, iconoclaste, quand on reste dans un seul univers, fait que les objets deviennent impossibles à représenter. On peut faire une critique de l'image, mais on ne peut pas montrer par une image la physique quantique.
Voilà, et là, en fait, on peut, grâce à la bande dessinée. Mais pour parler du
courage... Et grâce à Everett.
Grâce à Everett.
La bande dessinée toute seule n'aurait pas suffi.
Everett a souffert de ce courage, parce que quand il a proposé cette idée, il est allé voir, il l'a eu seul, en fait. Puis il est allé voir...
Il avait quel âge à l'époque, en 54.
Il avait 26 ans.
L'âge d'Einstein en 1905.
Voilà. Et il est allé voir John Wheeler en lui disant « J'ai eu une idée sur la réalité quantique. Est-ce que vous êtes prêt à superviser une thèse que j'écrirai autour de cette idée ?» Wheeler, qui avait au départ l'esprit ouvert, a dit « Oui, 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 toute idée nouvelle est intéressante sur la physique quantique. » Mais quand Everett lui a montré vraiment ces trucs, chaque fois Wheeler disait « Ah, intéressant, mais... que va en penser Bohr ? Parce que Niels Bohr était une figure paternelle pour Wheeler.
Pour
et
beaucoup.
Donc, il ne voulait pas, et pour beaucoup. Et il a dit, il faut demander à Bohr. Et il a obligé Everett à tout réécrire et à enlever les images de superposition, à dire non, on ne peut pas mettre ça. Et il a châtré complètement la thèse, en fait, d'Everett. La première personne qui a eu le courage de la prendre au sérieux, c'était plus tard, c'était Bryce DeWitt. Une dizaine d'années plus tard, en fait, le pauvre Everett n'a pas pu avoir un poste dans le monde académique et tout le monde a ignoré son idée. Mais ce courage, à mon avis, était le même que le courage qu'ont eu des Grecs il y a 2000 ans et Copernic il y a 500 ans, à peu près, en disant que la Terre était en mouvement. Parce que quand on dit que la Terre est en mouvement, chez les Grecs, quelqu'un a dit « la Terre est en mouvement ». Mais à quelle vitesse elle est en mouvement autour du Soleil ? 100 000 km/h. Maintenant, vous êtes un Grec. Si vous vous déplacez à 40 km/h sur votre char, sur les routes de l'Antiquité.
Ça paraît impossible.
Voilà. Ça, vous, déjà, à 40 km/h, tout tremble. Vous vous dites, bon, si je peux peut-être atteindre 50 km/h si mon cheval, j'en mets deux plutôt qu'un. Mais si on vous dit, la Terre est à 100 000 km/h, ils savaient ce chiffre-là, parce qu'ils avaient les dimensions du système solaire. Évidemment, ils disaient, mais c'est absurde. Vous voyez, les oiseaux ne retrouveront jamais leur nid, tout va foutre le camp. Et donc, il a fallu un courage énorme pour que quelqu'un arrive, c'était déjà chez les Grecs, puis après c'est Copernic, de dire non, je ne comprends pas pourquoi, mais ça va à cette vitesse. Et le premier qui l'a expliqué, c'est Galilée. Et comment il l'a expliqué? En disant, c'est vrai, ça paraît absurde, contraire au sens commun, mais en fait, ça ne se voit pas. C'est-à-dire, on ne sent pas le mouvement de la Terre. Il a fallu créer une nouvelle physique. Et c'est ça qu'a fait Everett, et après lui Dieter Zee, c'est-à-dire de montrer que l'univers quantique...
Dieter Zee, autre physicien...
Voilà, autre physicien qui a été un des premiers à redécouvrir, d'ailleurs, il m'a expliqué, sans connaître l'article d'Everett, il a repensé le point de vue d'Everett, et il a rajouté une façon de comprendre mieux pourquoi on ne s'en rend pas compte. Parce que l'idée essentielle, c'est que si vous expliquez à l'intérieur de la théorie elle-même que ce qui est contraire au sens commun, vous ne vous en rendez pas compte, comme le mouvement de la Terre... C'est absurde, c'est contraire au sens commun. Mais après, les physiciens ont démontré, oui, mais vous ne vous rendez pas compte. Bon, il y a un petit peu le pendule de Foucault qui permet de voir la rotation de la Terre, mais le mouvement, en tout cas, à 100 000 km/h en ligne droite, vous ne vous rendez pas compte. Donc, il a fallu des développements à l'intérieur de la théorie pour dire, on ne s'en rend pas plus compte que le mouvement de la Terre. Donc, ça n'est pas absurde.
C'est-à-dire que si on veut éliminer le hasard dans les interprétations qu'on produit de la physique quantique, il faut changer le critère de réalité et dire que la réalité n'est pas celle dans laquelle on croit être, mais une réalité en fait beaucoup plus riche.
Oui.
Est-ce que vous vivez, vous, personnellement, avec cette idée en tête? Quand vous faites un choix, vous savez que...
Oui, en fait, évidemment, tous les jours, on est pris dans l'illusion de la réalité habituelle, mais philosophiquement... Je joue le jeu.
Vous êtes en smoking, no smoking en permanence.
J'essaye. Je sais que, par exemple, un jour, au-dessus de Chamonix, endroit que vous aimez bien, Étienne, une école des Ouches, je suis parti dans une promenade, étant beaucoup moins professionnel que vous.
Ah, je ne suis pas professionnel.
J'étais en basket sur un névé et ça a glissé. Et il y avait un petit morceau de rocher qui sortait de la neige et sur lequel un de mes pieds s'est accroché. Et après, j'ai regardé en bas, c'était la chute mortelle. Donc ce jour-là, comme pour arriver ce jour-là avec le pied à ce jour-là au centimètre près, il s'est passé tellement de choses, quantiquement, des fluctuations ont fait qu'il y a d'autres morceaux de moi-même qui sont morts ce jour-là, en fait. Eh bien, ça m'a donné une très grande légèreté, c'est-à-dire sentir que notre réalité à cette beauté de superposition et qu'une partie de moi-même est morte, en fait, ce jour-là. En fait, je trouve, en tant qu'être humain, là, je suis...
Mais les interprétations qu'on trouve à la physique quantique ne sont pas là pour nous consoler ou nous faire du bien ou nous faire plaisir. Est-ce qu'il y aurait moyen de vérifier que cette interprétation, parce que ce n'est quand même une, pourrait être vérifiée, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait avoir une interaction avec ce monde enrichi par tous les événements qui viennent le compléter?
Eh bien, cette vérification expérimentale a déjà été obtenue et le dernier prix Nobel donné à un Français, un physicien français, Serge Haroche, a été donné précisément pour avoir vérifié que des objets de taille macroscopique, qui étaient des cavités supraconductrices, donc des cavités de 30 cm de diamètre, des choses comme ça, en métal, à l'intérieur de laquelle il avait créé deux états comme des états de pile ou face qui étaient macroscopiquement distinguables, c'est ça le point important, c'était des états du champ électromagnétique qui étaient distinguables classiquement, eh bien, ont été en superposition pendant une fraction de milliseconde. Il a vérifié en faisant passer... Donc, le chat de Schrödinger, pour lui, était deux états dans une cavité. Il a fait passer ce qu'il appelle une souris de Schrödinger, qui était un atome, qui était là pour voir l'état du chat. Et la souris, en passant, a dit oui, le chat est dans une superposition de deux états distincts. Et aussi, il a vérifié le mécanisme inventé par Dieter Zee, qui est que assez rapidement, la souris qui est passée dit « Ah oui, mais tout se passe comme si les deux états étaient séparés.
La décohérence.
Voilà, et la décohérence. Donc en fait, cette expérience faite
a
montré la superposition. Avant de montrer la décohérence, elle a montré la superposition. Parce que certaines personnes pensaient que le flou quantique n'existerait pas au niveau d'objets macroscopiques. Ici, il s'agissait d'objets qui tiennent dans un laboratoire, qui ont en tout un mètre de haut, et qui étaient dans une superposition macroscopique.
Oui, mais cette superposition fait que deux états, d'une certaine façon, coexistent dans le réel. On n'a pas besoin d'imaginer des couches différentes.
Mais c'est vous, Étienne, qui parlez de couches. Je vous ai dit, Everett n'a jamais parlé de couches. On ne parle pas d'univers multiple. On parle...
De superposition, simplement.
Superposition, au sens de couche graphique. Revenons à l'objet bande dessinée. Oui. Il y a une seule bande dessinée, mais sur les cases de la bande dessinée à la fin, il y a deux dessins en superposition. C'est ça la réalité dont on parle. Il y a bien notre univers et une seule bande dessinée. Il y a un grand univers quantique. Il faut changer notre notion de réalité quantique et penser ces superpositions.
Vous écoutez France Culture, la conversation scientifique par Étienne Klein.
Thibault Lamour, ça m'amène à une autre question, parce que vous êtes spécialiste de relativité générale, vous intéressez, on vient de le voir, à la physique quantique, à son interprétation. On lit partout, on entend dire partout que la physique quantique et la relativité générale sont incompatibles l'une avec l'autre, parce que leurs espaces-temps sont différents. Est-ce que l'interprétation que vous défendez, celle, disons, d'Everett, rendrait cette cohabitation ou cette unification entre la physique quantique et la relativité générale plus facile ?
Il y a une double réponse. Elle n'aide pas techniquement, c'est-à-dire les problèmes d'unification entre la théorie de la relativité générale et la théorie quantique sont des problèmes liés au trou noir, à ce qui se passe à très haute énergie et à ce qui se passe, les processus quantiques qui se passent à très petite échelle. À ce niveau technique, cette idée n'aide pas. Mais en revanche, quand vous pensez, et par exemple, il se trouve que ces temps-ci, je travaille avec des collaborateurs sur... Qu'est-ce qui se passe avant le Big Bang, comme on dit, c'est-à-dire quelle est l'origine de l'espace et du temps? Là, vous êtes obligé d'écrire des équations quantiques qui sont aussi inspirées de la théorie des cordes, qui est notre meilleur espoir aujourd'hui pour combiner relativité générale et théorie quantique. Et l'interprétation d'Everett, personnellement, c'est la seule qui me permet de penser le sens de ces calculs. Parce que, par exemple, on a pu résoudre récemment, c'est dans ce qu'on appelle un modèle jouet,
Toy model,
j'essayais de parler français.
Bah, je traduis en anglais pour qu'on reconnaisse.
Voilà, pour qu'on reconnaisse. Un modèle jouet, un toy model, où des équations de la supergravité quantique, donc qui est la théorie d'Einstein, quantique avec d'autres objets, supergravité, eh bien, vous trouvez que l'univers est en superposition. Et la seule façon de penser la cosmologie quantique, c'est Everett, à mon avis. D'ailleurs, Everett lui-même...
C'est une idée que partagent vos collègues, ou c'est votre façon à vous de gérer intellectuellement le problème?
Soyons clairs, effectivement. Parmi mes collègues, il y a la majorité des gens dans le monde qui utilisent la physique quantique, l'utilisent dans le cadre où la physique quantique sert à expliquer des choses que l'on peut voir dans un laboratoire et pas l'univers cosmologique entier. Si vous vous intéressez aux phénomènes quantiques dans un laboratoire, comme ce qu'a fait Claude Cohen-Tanucci ou Serge Haroche, vous n'avez pas besoin de l'interprétation d'Everett. Et même si, je pense, ils ont l'esprit ouvert. Serge Haroche m'a d'ailleurs dit qu'il avait beaucoup aimé la bande dessinée, mais il m'a pas dit, et je suis complètement convaincu par Everett. Je ne pense pas qu'il n'a pas besoin d'être convaincu par Everett, parce que la vieille façon d'interpréter la mécanique quantique par Bohr suffit pour interpréter les mesures dans un laboratoire. En revanche, il y a un sous-ensemble des gens qui travaillent sur la physique quantique qui sont ceux qui travaillent sur la cosmologie quantique. Et là, un sondage fait dans des conférences il y a quelque temps ont montré que la majorité, disons 60% des gens qui travaillent en cosmologie quantique trouvent que seule l'interprétation des vrais permet de penser cette réalité.
J'espère qu'ils n'ont pas répondu au hasard.
et d'ailleurs, une de ces personnes joue un rôle même dans la bande dessinée, parce que la bande dessinée, à un moment, pour introduire cette idée-là, fait rentrer nos héros dans une salle de conférence où a lieu une conférence Solvay moderne vers l'an 2000.
À l'hôtel Métropole.
Voilà, à l'hôtel Métropole. Et Slava Mouranov, qui est un des grands spécialistes de cosmologie quantique et qui est d'ailleurs le premier à avoir fait le calcul quantique des fluctuations qui ont donné lieu aux fluctuations de densité de notre univers, avoir montré qu'elles venaient de l'inflation et qu'elles étaient d'origine quantique, et comme moi, et qui apparaît dans la bande dessinée, oui, là oui. Je me suis amusé, je n'apparais pas en tant que physicien dans la bande dessinée, mais des collègues à moi apparaissent, et en particulier Slava Mouranov, qui est lui aussi absolument convaincu que Everett, c'est vraiment la seule chose, la seule façon de penser. J'aimerais rappeler aussi ce qu'a dit Bryce DeWitt, celui qui a redécouvert pratiquement 20 ans après l'interprétation d'Everett, qu'il ignorait. Il a dit « J'ai adopté le point de vue d'Everett parce que ce n'est pas la meilleure interprétation, c'est la seule interprétation possible, toutes les autres étant soit inacceptablement floues, soit contradictoires, soit irrationnelles. » Et en plus, il a rajouté « C'est celle qui permet de penser à la cosmologie quantique et aussi à l'informatique quantique. » Parce que je pense qu'il y a quelque chose d'important pour le futur de notre société. Actuellement, beaucoup de gens essayent d'utiliser les règles de superposition du monde quantique pour dire « si j'avais un ordinateur qui est dans un état de superposition, on peut faire des calculs là vraiment parallèles, puisqu'ils sont comme dans des univers parallèles, et il y a une puissance de calcul quantique qui est en principe bien supérieure à la puissance d'un calcul fait sur un ordinateur classique. Évidemment, on sait que ça va être très difficile parce que ces superpositions nous échappent très rapidement. Mais pour penser l'informatique quantique, je pense que penser l'univers comme superposition à la Everett est utile. Et d'ailleurs, un des grands spécialistes de ça, David Deutsch, est aussi quelqu'un d'absolument convaincu que Everett est la seule façon de penser le monde quantique.
Alors Thibaut Damour, dans cette bande dessinée qui est remarquable, notamment du point de vue du graphisme, hein, les personnages, les pères fondateurs de la physique quantique sont très bien dessinés, De Broglie, Schrödinger, Max Planck, Einstein évidemment qui est très présent. Alors vous vous rappeliez tout à l'heure que Einstein disait que c'était la théorie de dire ce qui existe.
Oui.
C'est un point de vue qui a évolué d'ailleurs dans sa pensée puisque... à propos de la relativité, vous l'avez rappelé, il avait des critères plutôt positivistes en disant finalement la physique doit nous dire ce qu'on peut mesurer et quel sens cela a. Simplement, est-ce que le fait que les critères que lui-même avait attribués à la réalité, qui sont apparus dans l'article qu'il a écrit en 1935 avec Podolsky et Rosen, l'article, le fameux article EPR, il y a quand même l'expérience qui a montré bien longtemps après que ces critères n'étaient pas tout à fait tenables, puisque les prédictions auxquelles cela menait ont été contredites par des mesures. Et ça n'apparaît pas dans la bande dessinée, est-ce que c'est un choix ou est-ce que... par exemple, qu'est-ce que Everett aurait dit à propos du résultat obtenu par Alain Aspect en 1981 qui a montré qu'il y avait des corrélations très très fortes entre des particules qui ont interagi dans le passé?
Du point de vue d'Everett, c'est très naturel, justement. Donc, effectivement, au départ, je voulais aussi représenter Alain Aspect donnant une conférence pour montrer ça et parler de Einstein-Podolsky-Rosen. Okay. On a finalement s'est rendu compte le scénario avait déjà beaucoup de choses à expliquer.
Oui, c'est compliqué.
Voilà. J'aimerais préciser aussi pour nos auditeurs que, bon, la BD, si on veut rentrer dans chaque détail, il y a beaucoup de choses, mais on peut aussi apprécier le graphisme.
On peut la lire comme une BD.
On peut la lire comme une BD. Hein. C'est pas un cours de physique.
C'est la superposition d'une BD et d'un livre savant.
Voilà. Très bien. Merci.
Superposition quantique.
Superposition quantique. On peut changer d'avis. Effectivement. On peut être dans la couche. Très bien. On peut être dans la couche où on ne voit que la BD. D'ailleurs, j'ai une petite nièce qui vit à Bucarest de 11 ans. Qui adore la BD, parce qu'il y a le chien, il y a les superpositions, et bon, Einstein, elle comprendra dans 5 ans peut-être ce qu'il dit, peu importe, ou dans en Roumanie, les études sont plus élevées qu'en France peut-être. Mais effectivement, Einstein nous a dit plusieurs choses sur la réalité quantique. Il a dit, le flou quantique existe au monde macroscopique, c'est un problème. Il a dit, le flou quantique donne des corrélations dans l'espace à 3 dimensions à distance, et là, il y a quelque chose de bizarre, il a essayé de définir si la réalité était localisée. Einstein n'a pas fait d'erreur du tout dans ces articles-là. Il a dit, il y a un problème, et il a, au contraire, il était positiviste en disant, et c'est des choses qui sont mesurables, qui sont prédites par la mécanique quantique, Bell, après lui, a compris qu'on pouvait les transformer en quelque chose qu'on pouvait tester expérimentalement, et Einstein aurait absolument accepté le résultat de l'expérience. Une chose que Everett, il n'y a aucun problème du point de vue d'Everett. Au contraire, les superpositions permettent de mieux comprendre. Il y a des gens qui, après l'expérience d'aspect, ont dit « Ah oui, la réalité, le réel voilé », en disant « Mais c'est voilé si on se voile la face ». C'est-à-dire, si on ne veut pas voir les réalités de superposition, effectivement, on trouve que le réel est voilé. En fait, il ne l'est pas. Et je pense sincèrement qu'il y a une façon de penser, il faut s'habituer à cette nouvelle réalité quantique. Mais Einstein lui-même, s'il avait vécu quelques mois de plus, parce que Everett est allé écouter Einstein, il a eu l'idée quelques mois plus tard. Et puis quand il a développé son idée, Einstein est mort juste à ce moment-là. Mais je pense que si j'aimerais imaginer un univers, une couche de réalité, où Everett va à 112 Mercer Street, frappe à la porte, comme j'ai eu le plaisir de le faire d'ailleurs.
À Princeton.
C'est la secrétaire d'Einstein qui m'avait accueilli, pas Einstein lui-même. Il m'avait invité à prendre le thé. Mais c'est Einstein qui ouvre et Everett lui dit, vous savez, pour la souris, vous aviez raison, mais avec un petit truc, c'est qu'il y a plusieurs souris et que finalement, ça n'est pas que la souris change l'univers, c'est l'univers qui change la souris. C'est l'univers qui multiplie la souris. Eh bien, Einstein lui aurait dit, ah, jeune homme, voilà une nouvelle idée que j'aime beaucoup. Enfin, une clarification et une rationalité dans le monde quantique.
Alors, ça, c'est le point important. Einstein a beaucoup pratiqué ce qu'on appelle les expériences de pensée. C'est-à-dire, il s'est imaginé dans certaines situations pour voir comment les théories qu'il voulait éprouver s'appliquaient dans ces situations qu'on ne peut pas forcément réaliser simplement en laboratoire. Et donc, pour terminer, je voudrais vous poser deux questions à propos de deux expériences de pensée qu'on peut imaginer. La première, vous venez en partie d'y répondre, c'est Einstein qui découvre en 1981 les résultats de l'expérience d'aspect. Je pense qu'il faudra quand même un certain temps pour encaisser ce qui pour lui serait sans doute un choc.
Il était plus rapide.
Non, il était rapide, oui, bien sûr. Ça, je remets pas ça en cause, mais je pense que le résultat même de l'expérience l'aurait beaucoup surpris. Il aurait parié sur un résultat qui confirmerait qu'il y a des variables cachées locales.
Non, si l'expérience d'aspect avait eu lieu avant l'interprétation, avant la vision d'Everett, effectivement, parce que l'expérience d'aspect, comme ça, le résultat de l'expérience d'aspect, sans avoir cette façon de penser la réalité quantique, rend plus violent, effectivement, le réel quantique. Il dit non seulement il y a du flou, mais en plus il y a des corrélations à distance. Mais si on se dit, mais le réel n'est pas dans un espace à trois dimensions, ça n'est pas là qu'il faut regarder les corrélations. Les corrélations, c'est au niveau de ces surimpressions de réalité, il n'y a pas de problème conceptuel. Donc,
deuxième expérience de pensée, Einstein est avec vous le 11 février 2016, il apprend qu'on vient de détecter les ondes gravitationnelles, il pensait qu'elles existaient, mais il ne pensait pas qu'on pourrait les détecter. Quelle serait sa réaction ?
D'abord, il pourrait faire remarquer que comment elles ont été détectées, ces ondes, avec des interféromètres qui sont nourris par des faisceaux laser. Et donc, il aurait été doublement content parce que c'est le laser dont il avait inventé le concept qui a permis d'atteindre un niveau de précision sur les déplacements des miroirs séparés de 4 km qui a permis de voir ces ondes extrêmement faibles. Donc Einstein aurait vu là une confirmation effectivement de la faiblesse des ondes gravitationnelles et comme il aimait beaucoup l'expérience, il aurait beaucoup admiré l'ingéniosité des gens qui ont travaillé pendant une trentaine d'années pour réussir cet exploit de mesurer ces ondes gravitationnelles qui ont fait bouger des miroirs du millième de la taille d'un atome tout de même.
Merci Thibaut Damour, j'ai beaucoup de questions à vous poser encore, mais dans l'espace où nous sommes, nous devons nous arrêter.
Merci Étienne, nous retrouvons dans d'une autre réalité.
À la question posée, peut-on bande dessiner le monde quantique ? En vous écoutant, je me suis convaincu que oui, alors que j'aurais parié que non. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Philippe Palares et à la réalisation François Connac. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Michel Simon pour Projection Privée.